RFI 6h à Paris, 5h en temps universel.
Andréanne Mélard.
Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréanne, bonjour à tous.
À la une de votre journal, le pouvoir syrien en quête d'unité.
Alors que des affrontements ont fait plus de 1500 morts, dont plus d'un millier de civils depuis jeudi dans l'ouest du pays, les nouvelles autorités annoncent un accord avec les Kurdes pour intégrer leurs institutions au sein de l'État. La CDAO va-t-elle faire un pas vers l'AES, l'Alliance des États du Sahel ? C'est ce que souhaite le président ghanéen qui vient d'achever une tournée diplomatique. Après le clash, la réconciliation aux États-Unis entre Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et Elon Musk, le bras droit de Donald Trump. Les explications à suivre. Et puis, c'est un procès très attendu qui s'ouvre aujourd'hui en Argentine, celui des soignants de Diego Maradona, la légende du football décédé il y a 4 ans d'un arrêt cardio-respiratoire.
Manifestation de joie et scène de liesse en Syrie.
Ahmed al-Sharr, le président par intérim, a annoncé hier un accord avec le chef des forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes pour les intégrer à l'État. C'est une véritable opportunité de construire une nouvelle Syrie, s'est félicité le chef des FDS qui contrôle une vaste partie du pays du nord à l'est. Alors les Kurdes vont-ils perdre leur autonomie ? Cédric Labrousse est doctorant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales.
Est-ce que l'administration du nord-est syrien est morte ? C'est fort peu probable, puisque si l'on s'en tient en tout cas au document qui nous est fourni, on note bien une intégration de cette administration au sein de l'administration globale du nouvel État syrien. Donc, probablement que les Kurdes ont dû obtenir de maintenir une large part des administrations qu'ils avaient eux-mêmes établies depuis 2013 dans la région. On a un laboratoire déjà d'une forme d'autonomie régionale. C'est celle qui est actuellement pratiquée, au moins d'un point de vue sécuritaire, dans le pays druze du sud de la Syrie. Donc on sent en fait un gouvernement qui est capable, en réalité, d'accepter un principe d'autonomie. Maintenant, la mesure, c'est celle de quelle autonomie on va parler pour les Kurdes.
Des propos recueillis par Théo Renaudon, un accord qui intervient alors que la Syrie est confrontée depuis jeudi dernier aux pires violences depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad, avec plus de 1500 morts dans l'ouest, dont 1068 civils. Majoritairement alaouites, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et si les autorités syriennes ont annoncé la fin de l'opération militaire contre les fidèles de l'ancien régime, les minorités syriennes s'inquiètent. Druzes, chrétiens craignent d'être à leur tour victimes de massacres. Le reportage du correspondant de RFI, Mohamed Erami.
Les préoccupations des minorités, selon Yahya Chakrak, un chrétien dans la trentaine, proviennent du fait que le nouveau pouvoir semble pencher vers un durcissement religieux et de leur passé où certains ont combattu au sein des groupes terroristes tels que l'État islamique, Al-Qaïda et le Front al-Nusra.
Pourquoi tous ces meurtres et cette lutte ? En réalité, nous n'avons pas compris la raison de ce qui s'est passé. Les combattants du gouvernement doivent être rationnels et préserver la vie des minorités ainsi que la vie de leurs enfants et leurs biens, car le sectarisme ne profitera à personne.
La protection des minorités et leur inclusion dans le gouvernement est, selon l'expert politique Samir Taqi, essentielle pour que le nouveau système syrien obtienne une reconnaissance internationale, car les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, exigent que le régime acquiert d'abord une légitimité interne avant d'obtenir une légitimité internationale.
Le message de l'Occident était clair et lié à la question interne de la Syrie. L'accent a été mis sur la légitimité interne plus que sur la légitimité externe. La légitimité interne signifie clairement que la nouvelle administration doit inclure toutes les composantes du peuple syrien et les gérer de manière appropriée.
Les musulmans sunnites représentent 74% de la population syrienne, tandis que le reste de la population est réparti entre les musulmans alaouites, les druzes, les kurdes et les chrétiens. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Et notez aussi ces frappes israéliennes hier dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, veut démilitariser. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elles ont visé les positions de l'ancienne armée syrienne et notamment un poste d'observation et des chars.
Une délégation a d'ailleurs quitté Israël hier midi et direction Doha au Qatar.
Pour des négociations indirectes sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël a débranché l'unique ligne électrique qui fonctionnait en encore dans l'enclave palestinienne qui alimentait la principale usine de dessalement de l'eau. Et si le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se dit très inquiet, Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, soutient cette mesure qui force, selon lui, le Hamas à prendre une décision.
Clap de fin de la tournée des pays de l'AES pour John Dramani Mahama.
Le président ghanéen a achevé hier à Ouagadougou sa visite pour tenter de recoller les morceaux entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la CDAO, mais pour la première fois, il a estimé que c'était à l'organisation ouest-africaine de faire un pas vers eux, un rôle de médiateur encouragé par le président ivoirien Alassane Ouattara qu'il avait rencontré la semaine dernière. Les précisions de Guillaume Thibault.
Face au silence du Malien Assimi Goïta qui n'a fait aucun commentaire sur cette visite officielle, au communiqué de la présidence du Niger qui ne citait pas la CDAO, John Dramani Mahama a visiblement décidé de prendre les devants en diffusant ce message juste avant de prendre l'avion présidentiel ce lundi pour Ouagadougou. À Niamey, avec le général Tiani, nous avons discuté de la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CDAO. Au sein de l'organisation, un diplomate indique « C'est la première fois qu'une telle proposition est faite par un chef d'État. » Visiblement étonné, il complète « Un chef d'État est libre, on ne peut pas lui refuser de prendre des initiatives personnelles. » Opposé à la méthode forte, celle de la CDAO et de son prédécesseur Nana Akufo-Addo, qui déclarait rester ferme face aux juntes en imposant de lourdes sanctions, John Dramani Mahama, respecté au Ghana pour ses talents de négociateur, tente donc d'ouvrir une nouvelle voie, tendre la main à l'AES et convaincre ses homologues de la CDAO que sa solution est la bonne, à voir si ces derniers tolèrent un tel revirement diplomatique.
Guillaume Thibault.
L'inquiétude de ce matin en mer du Nord, au large des côtes anglaises.
Après une collision entre un cargo portugais et un pétrolier américain qui a provoqué un incendie et un rejet de kérosène, les gardes-côtes ont lancé une évaluation pour décider des mesures de lutte contre la pollution à mettre en place. Une trentaine de personnes ont été secourues, mais un membre d'équipage est porté disparu. Après des recherches intensives, les autorités ont annoncé cette nuit y mettre fin.
Et on en reparlera dans une heure. Nous appellerons Emeline Vin à Londres. Moscou visée cette nuit par une attaque massive de drones ukrainiens qui a fait un mort et trois blessés.
Annonce ce matin des autorités quelques heures seulement avant le début de pourparlers en Arabie Saoudite entre représentants ukrainiens et américains. Premier contact depuis la rencontre houleuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. L'Ukraine va d'ailleurs y présenter un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie. Dans le même temps, Emmanuel Macron, le président français, reçoit aujourd'hui les responsables militaires de 30 pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Objectif, définir les garanties de sécurité à fournir à Kiev en cas de trêve et renforcer la défense de l'Europe.
RFI, il est 1h08 à Washington, aux États-Unis. Elle était essentielle dans la lutte contre le sida en Afrique du Sud, au Kenya, à l'organisation des soupes populaires au Soudan, à l'accès aux soins pour les femmes et les nouveau-nés en Éthiopie. On parle de l'USAID.
L'agence américaine de développement, quasi entièrement démantelée en 6 semaines seulement par l'administration Trump, avec la suppression de 83% de ses programmes. C'est ce qu'a annoncé hier Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, après sa dispute la semaine dernière avec Elon Musk. Les explications pour RFI de Guillaume Nodin.
La dernière fois que Marco Rubio et Elon Musk s'étaient adressé la parole, cela ne s'était pas très bien passé selon des informations de presse qualifiées de fake news par Donald Trump. C'était jeudi dernier lors de la réunion du gouvernement au cours de laquelle le président a précisé les fonctions du département de l'efficacité gouvernementale de son conseiller spécial et le rôle de chacun dans les licenciements de fonctionnaires. À cette occasion, Elon Musk avait apparemment accusé Marco Rubio de n'être bon qu'à la télévision et de ne virer personne, ce que le secrétaire d'État avait contesté avant que Donald Trump n'intervienne pour dire que Marco Rubio avait beaucoup à faire et faisait du bon boulot. Cette fois, en annonçant que plus des trois quarts de l'aide internationale américaine est annulée, Marco Rubio prend bien soin de remercier le DOGE et ses effectifs qui travaillent dur. Réponse immédiate d'Elon Musk, c'est dur mais c'est nécessaire et nous faisons du bon travail ensemble. Il faut dire qu'entre ces fusées qui explosent au-dessus du nouvellement baptisé Golfe d'Amérique, les ventes et les actions de Tesla qui s'effondrent et son réseau social qui tombe en panne pendant toute une matinée, Elon Musk a besoin d'amis, Marco Rubio veut apparemment bien être celui-là, sans doute pas par gentillesse, mais parce que c'est la vérité officielle et présidentielle. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
4 ans après la mort de Dieu, de la légende Diego Maradona, le procès.
Victime d'une crise cardio-respiratoire à l'âge de 60 ans après une neurochirurgie pour un hématome à la tête, aurait-il pu être sauvé? Comment est-il réellement mort? 7 professionnels de santé sont jugés à partir d'aujourd'hui en Argentine. Ils sont accusés d'homicide par négligence. Les précisions à Buenos Aires de Théo Conscience.
Comment Diego Maradona a-t-il pu mourir seul dans son lit alors qu'il était censé être suivi 24 heures sur 24 par son équipe médicale, s'interroge Juan.
Il y a beaucoup de choses à éclaircir sur ce qui s'est passé. Moi, ça m'a brisé le cœur car il était notre messie, notre représentant, notre monument. Il n'y aura plus jamais personne d'aussi grand et aussi humble que lui.
En 2021,
un rapport d'expertise médicale avait estimé que Maradona avait été abandonné à son sort par son équipe soignante. Franco, 23 ans, estime que ses médecins et infirmiers doivent rendre des comptes.
Pour moi, c'est presque comme s'ils l'avaient laissé mourir, parce que compte tenu de ses addictions, ils auraient dû prendre davantage soin de lui, ils auraient pu le sauver.
Cirrhose, insuffisance rénale et cardiaque, addiction à l'alcool et aux médicaments, Diego Maradona a vécu une vie d'excès, rappelle Bruno, lui-même infirmier. Pour lui, l'équipe médicale ne doit pas devenir le bouc émissaire d'un décès vécu comme une tragédie nationale.
Je comprends que comme il s'agit de Maradona, avec tout ce qu'il représentait, il y ait des doutes sur ce qui s'est passé. Mais quand on regarde son style de vie, ça ne pardonne pas, on pouvait s'attendre à ça.
Famille, experts, médecins, plus de 120 témoins vont se relayer à la barre pour tenter d'éclaircir les circonstances de la mort de l'idole argentine. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et pour en savoir plus sur ce procès, nous appellerons Théo Conscience tout à l'heure à 8h20, heure de Paris. On termine en musique ce journal avec un groupe américain Sextile.
Il sort bientôt son 4e album, Yes Please. Alors si vous n'êtes pas bien réveillé, José Marinho va remédier à tout ça.
L'énergie du punk mixée à la liberté de la rave soutenue par la machinerie électronique, on pourrait définir ainsi cet album de 13 titres du duo californien Sextile formé en 2015. C'est dansant, mais cet album résonne comme un appel à la résistance. Face à Donald Trump, ses sorties sexistes, ses positions anti-avortement et contre la communauté LGBT, Sextile gronde et le dénonce en s'efforçant de toucher différentes générations grâce à l'alliage des courants New Wave et Techno, comme ici sur ce titre. Tout sur Yes Please sonne donc comme un appel à ne pas se laisser abattre et à prendre avant tout du plaisir. À l'heure où l'Amérique ne sait plus très bien à quelle géographie se rattacher, le message est clair, Sextile clame haut et fort que le bonheur demeure une idée neuve.
Sextile en tournée mondiale qui passera aussi par la France et notamment à Paris le 4 juin au Trabendo.
Et Sextile, c'est notre choix musical aujourd'hui. Rendez-vous juste avant 9h. José Marinho viendra nous en parler en musique, bien sûr. Merci Alban Le Prince. 6h13 à Paris. Merci d'avoir choisi RFI ce matin. On est ensemble pour 3 heures d'infos, de chroniques, de reportages, d'invités. Aujourd'hui, on va parler de l'AES, de la Guinée, mais aussi de ces discussions hébergées par les pays du Golfe, sur Gaza, ça se passe au Qatar, sur l'Ukraine également, ça c'est en Arabie Saoudite, et nous appellerons Kiev à 8h pour connaître les attentes des Ukrainiens à l'aube de ces discussions. Également ce matin, la Syrie, après plusieurs jours de violences meurtrières dans l'ouest du pays, les autorités ont annoncé la fin des opérations militaires contre les pro-Assad, et la présidence par intérim promet des enquêtes pour punir les responsables des tueries. Voilà ce que dit ce Syrien à la 8.
Nous ne lui faisons pas confiance, c'est sûr. Il dit des choses, mais ne les applique pas. Et nous connaissons son passé. Tout le monde le connaît. Après toutes ces années et tout ce qu'il a fait, après tout ce que nous endurons aujourd'hui, les Alaouites ne lui feront pas confiance pour mener une enquête.
Un témoignage à écouter sur la longueur à 8h tout à l'heure. RFI Matin, c'est aussi aujourd'hui le sport. Antoine Grenier sera avec nous dans une demi-heure pour le journal dédié, l'info sport, avec surtout du foot ce mardi et les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. On sera à Liverpool ce matin où ce soir aura lieu le match de tous les dangers pour le PSG Paris. Syrie a perdu in extremis à domicile mercredi dernier. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? D'autant que chez les Reds, un certain Mo Salah pourrait faire parler de lui devant son public.
Il y a des joueurs comme ça, c'est un privilège de les avoir, de les regarder. Il ne faut pas les perdre des yeux parce qu'ils sont capables, comme ça, sur un geste, de faire quelque chose de spécial avec le ballon.
Un reportage de Cédric de Oliveira, retrouvé à 8h15 tout à l'heure. Dans notre dossier du 8h ce matin, on va parler du Covid, parce qu'il y a 5 ans, jour pour jour, l'Organisation Mondiale de la Santé parlait pour la première fois de pandémie. On revient aussi dans notre dossier du 7h30 ce matin. Plus précisément, on va parler production africaine de vaccins, alors que l'Union africaine veut développer l'industrie locale. RFI Matin, vous avez une partie du programme, on peut commencer. Et d'abord direction les Philippines, précisément le sud de l'archipel sur l'île de Mindanao, dans la région autonome du Bangsamoro, une partie du pays musulmane, contrairement à tout le reste des Philippines qui est en grande majorité catholique. Et c'est aussi une zone sensible de l'archipel. Sur place, au début du mois de mars, une nouvelle vague de violence a eu lieu, alors que le gouvernement philippin a décidé de repousser les premières élections parlementaires de la région à octobre prochain. Selon les analystes, c'est un délai trop long pour cette partie du pays instable où la paix est encore fragile. On en parle ce matin avec notre correspondante aux Philippines, Nemo Lecoq-James. Bonjour Nemo.
Bonjour Andréane, bonjour aux auditeurs de RFI.
En direct avec nous ce matin, Nemo. Alors concrètement, quelles sont les conséquences de ce report d'élection ?
Eh bien, un délai plus long d'incertitude, d'instabilité et donc potentiellement plus de violence au sein de la région autonome du Bangsamoro musulman. Il faut savoir que ces élections étaient très attendues dans cette partie de l'archipel. Pour rappel, elles se seraient inscrites dans le cadre des élections de mi-mandat le 12 mai prochain, où une grande partie des postes nationaux et municipaux du pays seront soumis au vote des Philippins. Pour la région autonome musulmane du Bangsamoro, c'était l'occasion d'organiser les premières élections démocratiques de son histoire. Depuis 2014, un processus de paix est négocié entre le principal groupe rebelle, le Front Moro de Libération Islamique, et le gouvernement. Ce processus a abouti à l'autonomie de la région en 2019, après plus de 40 années d'insurrection séparatiste. Cependant, la paix reste encore trop fragile. Les incidents entre les groupes rebelles augmentent depuis 2 ans. On en compte près de 3000 rien que pour l'année 2024.
Et comment expliquer, Nemo, l'instabilité chronique de cette région ?
Alors certes, il y a la religion. Cette région à majorité musulmane a longtemps été séparatiste, en conflit avec le reste du pays et mise à l'écart. Mais pas seulement. La population du Bangsamoro est aussi la plus pauvre des Philippines et fait face à d'immenses défis liés au changement climatique. Il faut savoir que la région dépend totalement de l'agriculture. Un tiers de sa superficie totale est consacrée aux activités agricoles et 50% de sa main-d'œuvre est employée dans ce secteur. La population est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques, comme les typhons, les inondations et les grandes périodes de sécheresse. Résultat, elle est constamment sous la menace du manque de ressources et de moyens de subsistance.
Et un des exemples concrets, c'est le marais de Likawasan au centre de l'île.
Oui, c'est l'une des plus grandes zones marécageuses de l'île. Elle abrite une riche biodiversité d'espèces et fait vivre plus de 300 000 personnes. Mais elle est aujourd'hui la source de nombreux conflits fonciers. En fait, les ressources du marais sont menacées par le changement climatique, la déforestation, l'exploitation des terres et par la pollution des déchets. Résultat, les analystes observent des conséquences directes sur l'augmentation de la violence. À cause du manque de ressources, la population a moins de travail et de plus en plus de jeunes chômeurs aux alentours sont susceptibles de rejoindre des groupes armés.
Nemo Lecoq-James en direct avec nous de Manille ce matin pour la Une en Asie. Merci Nemo, RFI Matin. Dans une dizaine de minutes, le retour de l'info africaine. Et à 7h, on va parler de ces discussions aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre délégations ukrainiennes et américaines. Sur la table, un plan de cessez-le-feu partiel avec la Russie. Cela fait 3 ans depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine et ce conflit continue de chambouler l'ordre mondial alors que l'Europe, elle, veut renforcer sa défense, un sujet dont on va parler ce matin avec notre invité international. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À 7h20, nous appellerons l'ancienne présidente d'Estonie, Kersti Kaljulaid.
Oui, elle a été présidente d'Estonie de 2016 à 2021. Première femme à accéder à la présidence de ce petit pays de moins de 1,5 million d'habitants. C'est l'un des plus petits états de l'Union Européenne, petit mais en première ligne dans cette guerre en Ukraine, parce que l'Estonie est un des 3 pays demi-balte avec à l'est une frontière terrestre avec la Russie parce que l'Estonie a été annexée par l'Union soviétique en 1940. Indépendante depuis 1991, intégrée à l'Union européenne et à l'OTAN depuis 2004, l'Estonie compte 25% de russophones. L'Estonie, c'est aussi le pays européen qui donne le plus à l'Ukraine en proportion. Il fournit une assistance financière qui représente plus de 2% de sa richesse nationale. On va demander à Kersti Kaljulaid comment elle observe les événements de ces dernières semaines et ce qui se passe en ce moment, elle est en ligne de Tallinn avec nous tout à l'heure.
À tout à l'heure Arnaud, 6h20, temps universel pour cet entretien. En France, à Paris, il y a les boulangeries par centaines, les pharmacies, elles sont des centaines aussi, les cavistes, et il y a les réparateurs de vélos, des réparateurs qui de plus en plus proposent aussi de vous apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, plus économique, plus écologique. Les ateliers d'auto-réparation se multiplient dans le pays. Benoît Narbonne s'est rendu dans l'un d'entre eux, dans l'Est parisien. Reportage.
Une vingtaine de vieux vélos entassés, des centaines de pièces d'occasion rangées par catégorie sur une étagère et des outils posés au mur. Dans l'atelier de la cyclette, tout est à disposition pour remettre à neuf son vélo. Margot Franquet est une employée de l'association. Elle n'est pas là pour réparer les vélos, mais pour aider à les réparer par soi-même.
Dans l'atelier, quand les adhérents viennent, les gens viennent, ils peuvent venir et en autonomie réparer leur vélo. S'ils n'ont pas besoin de nous, on n'a pas besoin d'aller les aider. Ils peuvent aussi nous appeler. Il y a pas mal de gens qui ont besoin d'aide en fait la première fois qu'ils viennent.
En échange d'une adhésion de 30 euros par an ou de 15 pour les étudiants, les cyclistes peuvent venir réparer eux-mêmes leurs deux roues en utilisant des pièces récupérées. Pour Margot, ils ont tout à gagner à savoir réviser eux-mêmes leur vélo.
Ouais, la réparation d'un vélo, quand on apprend à le faire soi-même, ça a un intérêt hyper pédagogique, on sait ce qui se passe dessus. Un intérêt économique, c'est imbattable, on ne peut pas avoir moins cher que sa propre main-d'œuvre. Et les pièces détachées aussi, elles sont à des prix imbattables puisqu'elles sont à prix libre.
Les cheveux attachés à la va-vite, Agnessa, 23 ans, est une cycliste aguerrie. Elle possède 3 vélos différents et vient modifier celui qui lui sert pour ses trajets en ville, un vieux vélo de course orange fluo.
Il est un tout petit peu trop grand, donc j'essaye de voir qu'est-ce que je peux modifier pour faire en sorte que ça soit confortable.
Elle endosse un des bleus de travail en libre accès et retrousse ses lignes.
Ouais, c'est écologique, économique, mais c'est aussi parce que c'est gratifiant d'apprendre à connaître son vélo et savoir le réparer. La première fois que j'ai changé une roue, je me suis sentie ultra forte. Ça me paraissait ultra dur et en fait c'était assez facile. Et puis en fait là, ça nous permet d'avoir plein d'outils, d'avoir plein de conseils différents et c'est assez cool quoi.
Une autre activité de l'atelier, la récupération de vieux vélos abandonnés ou abîmés. Marc est un stagiaire de la cyclette, il examine l'un d'entre eux.
C'est un vélo qu'on pourrait soit remonter et le mettre à la vente, soit le mettre au démontage pour récupérer les pièces. Donc pour s'assurer de sa destination un peu, on teste la potence, par exemple la tige de selle, qui là est encore bloquée. Ce vélo pourrait être à remonter.
Si le vélo peut être remis en état, il sera ensuite proposé à prix cassé aux adhérents de l'atelier ou utilisé pour des sorties organisées avec d'autres associations. En France, le réseau L'Heureux Cyclage recense près de 538 ateliers d'autoréparation sur tout le territoire.
Un reportage à Paris de Benoît Narbonne. Faire du vélo plutôt que prendre sa voiture, voilà un geste concret pour la planète. Dans notre question d'environnement ce matin, on va voir que parfois, pour tenter de faire face au réchauffement climatique, les idées fusent un peu dans tous les sens au risque de perdre de vue l'objectif initial. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
Vous nous parlez géo-ingénierie ce matin. On va voir avec vous pourquoi il faut s'en méfier. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Eh bien, ce sont toutes les techniques qui visent à modifier à grande échelle le climat de la planète pour la refroidir artificiellement. Cela va être par exemple la diffusion de particules de soufre très haut dans l'atmosphère et parce qu'elles ont un effet réfléchissant, elles vont renvoyer les rayons de soleil dans l'espace avant qu'ils ne viennent réchauffer la Terre. Autre exemple, l'éclaircissement de nuages, une technique qui vise à diffuser du sel dans les nuages pour les rendre très blancs et qu'ils renvoient mieux eux aussi les rayons du soleil. Un autre projet, c'était de remplacer la banquise qui a fondu par une couche de petites billes en verre pour là aussi réfléchir les rayons et éviter le réchauffement de l'océan Arctique, un projet qui vient d'être abandonné.
Des projets un peu fous hein, et qui comportent des risques qui ne sont souvent pas bien compris et pas bien pris en compte.
Oui, prenez par exemple le soufre dans l'atmosphère. Les scientifiques pensent que cela peut provoquer des pluies acides, une pollution des sols et des eaux avec des conséquences sur la santé, l'environnement, l'agriculture et donc sur notre alimentation. Les expériences réalisées avec les billes de verre, elles, ont contaminé la chaîne alimentaire locale. Et plus globalement, en jouant aux apprentis sorciers, on risque de détraquer tout le fonctionnement du climat planétaire, changer les vents, les courants marins, les pluies et leur répartition, et à la fin, provoquer même des catastrophes climatiques. Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, alerte aussi sur un risque de conflit géopolitique. Exemple, la Chine utilise déjà massivement des techniques de modification de la météo. Elle provoque la pluie en diffusant des petites molécules d'argent dans l'air pour garantir ses besoins en eau, et ça n'est pas du goût de l'Inde.
La Chine ne fait pas ça uniquement sur son propre territoire, mais va aller faire ça sur le plateau tibétain, donc qui est déjà une région contestée sur le plan territorial, mais qui est en plus la source de la plupart des ressources hydriques indiennes. Et donc, certains responsables politiques indiens ont l'impression que, à cause de ces techniques, ils subissent plus d'inondations, ou au contraire, qu'ils subissent des sécheresses. Ça produit effectivement de la conflictualité.
Alors, malgré tout, Jeanne, ces techniques de géo-ingénierie ont le vent en poupe.
Oui, c'est dû au lobbying très actif d'entreprises qui ont des intérêts financiers à développer la géo-ingénierie. La plupart sont aux États-Unis. Elles sont soutenues par de grands philanthropes et de riches businessmen. Finalement, la géo-ingénierie fait miroiter un monde où l'on pourrait continuer à exploiter et polluer, et puis ensuite changer la planète pour nous arranger. Alors qu'en fait, on connaît déjà les solutions pour faire face au changement climatique, réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Et on en parle régulièrement dans ce rendez-vous chaque matin, la question d'environnement sur RFI. Merci à vous, Jeanne Richard. Tout de suite, un petit peu de musique avant le journal. C'est le conseil de nos spécialistes maison, Sarah Balland, avec la Sénégalaise Séni Camara et Cory Sesnek.
Saraba Gudi gudi saraba yai Lola lo saraba Hey hey saraba It's my homeland Gudi gudi saraba yai Lola lo saraba
Camara avec Cory Sesnek, le titre Sarah Balland à retrouver sur notre playlist RFI ce mois-ci sur toutes les plateformes d'écoute.
Priorité.
Côté Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prise en charge des traumatismes crâniens pour éviter les complications.
Demain,
dépression, exaltation, comment le trouble bipolaire agit-il sur l'humeur?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
cuisiner en Afrique avec les haricots magiques du continent qui servent à presque tout.
Demain,
l'école française, souvent présentée comme un sanctuaire, doit-elle davantage s'ouvrir sur la société?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.